أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous remercions le Seigneur. Toutes les louanges vont à Allah, mes frères. Allah, c'est lui le Seigneur des mondes. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah, l'unique, sans associé. À lui appartient la royauté, à lui toutes les louanges et à lui la toute grandeur. C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. À lui appartient la décision de toutes choses et il est capable de toutes choses et c'est vers lui que sera notre retour. Et j'atteste que notre maître et notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son envoyé et serviteur. Il est la meilleure de ses créatures et il est son ami intime. Il a fait les efforts sur la voie de son Seigneur jusqu'à ce qu'il lui donne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Que les prières et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les ont suivis dans le bien, et nous avec eux, inshallah. Allah nous dit dans le Coran, « Ô homme, redoutez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et à partir de celui-ci a créé son épouse, et qui a de ces deux-là fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Redoutez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Oui, mes frères, il faut craindre Allah et le redouter, en privé et en public. Car Allah nous observe. Allah nous dit, quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. L'âme humaine a été créée de telle sorte qu'elle trouve la paix et la tranquillité à côté d'une autre âme. L'âme humaine a besoin d'une compagnie. C'est la raison pour laquelle Allah nous a dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous vos épouses, pour que vous viviez en tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et Allah, dans ce verset, n'a pas dit des épouses pour que vous viviez avec elles. Allah a dit des épouses pour que vous viviez en toute tranquillité auprès d'elles. Donc ceci indique, mes frères, que le mariage est une tranquillité, une stabilité. Le mariage est le calme et le repos de l'esprit. Et c'est à partir de cela qu'est venue l'importance du mariage en islam et la considération donnée à la famille. Ainsi, la législation islamique exhorta au mariage, elle appela au mariage, elle incita à le rendre facile et interdit tout ce qui fait obstacle au mariage, tout ce qui empêche son accomplissement, tout ce qui trouble sa pureté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, « Ô jeunes, quiconque parmi vous a la capacité de se marier, c'est-à-dire matériel et physique, quiconque a la capacité de se marier, qu'il se marie. » Et le mariage fait partie de la tradition de tous les messagers. Alayhi salam. Oui, mes frères, notre religion nous donne beaucoup d'importance. Elle donne beaucoup d'importance à la constitution de la famille, considérant que la famille est la base de la société, cette société qui se fortifie selon l'attachement et les liens qu'il y a entre les familles. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les musulmans entre eux à une construction solide dont les parties se fortifient les unes des autres. Allah ordonna alors de se marier, ceux qui en ont la capacité, et il interdit d'empêcher les femmes de se marier, de même qu'il mentionna dans le Coran et la Sunna les droits et les devoirs des époux. Car la stabilité des maisons et le bon état des familles ne peuvent se réaliser qu'avec la stabilité des deux époux et leur réussite dans leur vie conjugale. Et étant donné que celui qui ne possède pas une chose ne peut donner cette chose, le père et la mère qui sont malheureux dans leur foyer n'apporteront aucun bien à leur société. Et à plus forte raison, ils ne pourront pas éduquer des générations pieuses qui seront capables de construire et de diriger. Donc le mariage réussi, mes frères, correspond aussi à la réussite de la société, tandis que la destruction des familles correspond à la destruction des villes. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe. Il nous dit, Iblis, le shaitan, le diable, pose son trône sur l'eau et il envoie ses expéditions. Il envoie ses armées à travers la terre pour y semer le désordre. Et ceux qui sont le plus proches de lui, ses préférés, sont ceux qui commettent le plus de tentations à travers la terre. Un parmi les diables vient et fait son rapport, dit « J'ai fait telle ou telle chose, j'ai fait qu'un tel a volé, j'ai fait qu'un tel a bu. » Le shaitan lui répond « Tu n'as rien fait. » Puis vient un autre diable et lui dit « Je n'ai pas laissé un tel, je n'ai pas laissé Mohammed, je n'ai pas laissé Zayd jusqu'à ce que je l'ai fait séparer de sa femme. » Alors le shaitan l'appelle et lui dit « Viens à côté de moi, toi tu es un bon. » Voilà mes frères ce que le diable préfère, la destruction des couples et des familles. Et ceux qui le suivent parmi les corrupteurs ont fourni des efforts pour détruire cette entité et pour désintégrer les liens de la société en désintégrant les familles. Et ceci représente de grands dangers, mes frères. L'augmentation des taux de divorce, l'égarement des enfants, les femmes qui restent célibataires, la dispersion de la société, la débauche se propage et la rancune apparaît entre les familles. Mais mes frères, mes sœurs, nous savons que la perfection est impossible à obtenir et que les divergences font partie de la nature de l'homme et que les deux époux ne peuvent pas se ressembler l'un et l'autre en ce qui concerne les caractères, les qualités, les désirs et la pensée. Et le fait que l'un soit un homme et l'autre soit une femme suffit comme différence, mes frères. Il y a aussi le fait que nous vivons dans un monde et une époque qui ont leurs exigences et leurs effets. Et pour toutes ces raisons, il se peut que des tempêtes se déchaînent sur certaines familles. Il se peut que les deux époux divergent et se disputent. Et aucune maison n'échappe à cela, même pas la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie des principes de la vie. Mais la maison pieuse, mes frères, qui a été bâtie sur la crainte d'Allah, dans laquelle les deux époux connaissent leurs droits et leurs devoirs, n'est pas touchée par les effets de ces divergences et de ces disputes. Mais au contraire, cela augmente leur attachement et leur fermeté, et ils obtiennent l'éveil et la compréhension. Ils profitent de cela pour ainsi se corriger, pour corriger leurs erreurs et fermer les portes du mal pour l'avenir. Mes frères, mes sœurs, la majorité des problèmes conjugaux proviennent de la désobéissance d'Allah. Et il arrive à cause de cela que certaines relations conjugales deviennent un ennui et une indignation au lieu d'être une tranquillité et une miséricorde. Allah nous dit dans le Coran, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Et sans aucun doute, parmi les plus grands malheurs, nous trouvons la démolition des foyers, mes frères. Et un savant parmi les pieux anciens nous dit, « Lorsque je désobéis à Allah, je trouve l'effet de cela dans ma monture et dans mon épouse. » Et oui, mes frères, comment pouvons-nous atteindre une réussite de la part d'Allah alors que nous livrons tous les jours un duel avec Allah en commettant les péchés? Comment peux-tu attendre l'entente et la tranquillité dans ton couple si tu désobéis en permanence à ton Créateur? Par contre, mes frères, il faut être indulgent. Un péché commis par ta partenaire n'est pas un justificatif pour que tu négliges ses droits ou pour que tu aies un mauvais comportement avec elle. Et parmi les péchés commis, certains sont malheureusement classiques, comme la négligence des prières et commettre les choses interdites. Et d'autres péchés sont propres au mariage, comme la négligence des droits et des devoirs conjugaux. Et nul doute que les disputes et les conflits apparaîtront selon le degré de négligence de ces droits. Et celui, mes frères, celui qui néglige le droit de son épouse, ou celle qui néglige les droits de son époux, sache qu'il ou elle a désobéi à Allah en premier lieu. Les deux époux doivent se rappeler, lorsqu'ils accomplissent les droits, qu'ils obéissent à Allah en obéissant à ses ordres. Et s'ils accomplissent les droits avec l'intention d'obtenir la récompense d'Allah, cela devient une adoration. Rappelez-vous, mes frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a confié que le musulman est récompensé même pour la bouchée de pain qu'il met dans la bouche de son épouse, même si les dépenses sont obligatoires pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle également que lorsque la femme et l'homme se rapprochent, lorsqu'ils ont des rapports intimes, ils ont des récompenses auprès d'Allah, bien que cela soit une chose naturelle. Donc mes frères, la solution la plus importante et qui est la première solution pour celui qui veut obtenir le bonheur est l'accomplissement des droits d'Allah et l'obéissance à ses ordres. Et celui ou celle qui veut une vie agréable, qu'il écoute donc la parole d'Allah suivante. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs œuvres. Et parmi les injustices commises, mes frères, il y a le fait d'obliger une femme à se marier avec un homme qu'elle ne désire pas. Et ceci à cause de nos coutumes, à cause de nos coutumes anciennes et désuètes, pour la marier avec un de ses proches parents qu'elle ne désire pas, ou à cause du fait que son tuteur convoitise la haute position du prétendant ou son argent. Et nous le disons haut et fort, mes frères, ceci est interdit et est une injustice. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'il nous est interdit de marier une femme sans son accord. Il est interdit de marier une femme sans son accord. Et le fait de ne pas se préoccuper dans le choix de l'époux, de sa religion, fait partie du mauvais choix. Et certains pères de famille, certains tuteurs, interrogent au sujet de la fonction, de l'argent, de la position sociale, des affaires de la vie et de ce monde, en oubliant qu'il ne peut pas faire confiance, en ce qui concerne sa fille, à quelqu'un qui trahit Allah et son messager. De même que le prétendant oublie que celle qui néglige les droits d'Allah n'accomplira jamais les droits de son époux. Et il arrive souvent, mes frères, qu'une maison soit fondée sur cela seulement. Comment s'étonner alors qu'un tel foyer soit au bord d'un précipice et qu'il risque de s'effondrer? Et les pères de famille, les tuteurs, assument une partie de la responsabilité pour leur négligence. Car combien de femmes pieuses et chastes furent éprouvées par un époux qui ne prie pas ou qui boit de l'alcool ou qui commet d'autres choses interdites? Et combien d'hommes stipulèrent toutes les conditions mondaines, financières concernant leurs fiancées, mais la religion était leur dernière préoccupation. Et ils s'aperçurent qu'elles ne conviennent pas à être leurs épouses. Et la grande question, mes frères, est sur quelle base doit se faire le choix? La réponse se trouve dans deux récits prophétiques, dans deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit, alayhi salatu wa salam, lorsque vient à vous une personne dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, pour vous demander votre fille, mariez-le. Lorsque vient une personne dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, donnez-lui votre fille. Et le prophète rajoute, et si vous ne le faites pas, il y aura sur terre une tentation et une grande corruption. Et le deuxième hadith qui répond à la question sur quelle base doit se faire le choix des époux, le deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le suivant. La femme est épousée sur quatre critères: pour son argent, pour sa descendance, pour sa beauté ou pour sa religion. Et le prophète nous dit, cherche à obtenir celle qui est pieuse, tu auras alors obtenu une immense fortune. Et à partir de cela, mes frères, mes sœurs, attention aussi à ne pas mal débuter une vie maritale. Car celui qui commence sa vie conjugale en accomplissant des actes interdits dans la religion, comment peut-il attendre une réussite de la part d'Allah? Je veux dire par cela les choses interdites, les actes blâmables qui sont accomplis déjà lors des fiançailles et lors des cérémonies de mariage, et par lesquels certains musulmans ont été éprouvés. Et ces actes peuvent enlever la bénédiction et la réussite du mariage, comme le fait que les femmes étalent leur charme, le mélange entre les hommes et les femmes, les orchestres et les danses, les vêtements qui laissent apparaître la nudité, l'accomplissement des prières en dehors de leurs heures prescrites, le gaspillage de l'argent et l'orgueil dans la préparation du mariage et des cérémonies, jusqu'à ce que certaines cérémonies se soient transformées en tyrannie et en péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, mes frères, le mariage le plus béni est celui où il y a le moins de dépenses. Le mariage le plus béni est celui où il y a le moins de dépenses. Donc, craignez Allah, mes frères, mes sœurs, et que chacun accomplisse son rôle, et que chacun assume sa responsabilité. Et en connaissant les causes des problèmes dans les familles et dans les couples, la personne douée d'intelligence les évite, et elle conseille ses frères musulmans, afin qu'ils n'y tombent pas. Et le fait que les proches parents interviennent dans les problèmes conjugaux s'oppose à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le fait de ne pas s'occuper des affaires qui ne le concernent pas fait partie du bon islam de l'homme. Nous devons garder nos secrets et résoudre nos problèmes nous-mêmes. Mais si la situation s'aggrave, ceux qui veulent arranger les affaires peuvent alors intervenir, et non pas ceux qui veulent la corruption, mes frères. Car les mauvaises langues qui propagent tout nouveau problème qui arrive tournent dans toutes les maisons. Puis la médisance et la calomnie se multiplient et se propagent sur toutes les langues. Et ceci n'est qu'une chose blâmable qui détruit les foyers, mes frères. Et parmi les causes des problèmes familiaux, nous comptons également le mauvais regard que subit le mariage et la compréhension incorrecte et les buts élevés du mariage religieux. Et parmi ces buts élevés, la réalisation de la chasteté des deux époux et la tranquillité naturelle entre eux, l'établissement du foyer musulman, l'entraide dans l'accomplissement du bien et de la piété et l'éducation des enfants pieux, mes frères, des enfants qui adorent Allah et lui obéissent. Donc, si les deux époux se rappellent ces significations, ils ne se retourneront pas vers les choses faciles et futiles. Et s'il se produisait une erreur minime, il lui donnerait la valeur qu'elle mérite et il se rappellerait la parole d'Allah, Allah qui nous dit « Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle ». Le shikh arrive, donc je vais lui laisser la parole, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.